Vous vous souvenez qu'il y a 15 jours, nous avions abordé un thème et nous avions essayé de relier, de mettre en commun quatre personnages, Abraham, Isaac, Job et David. Et puis l'idée évidemment c'était d'aborder le thème du témoignage que la foi procure dans une vie et qu'est-ce que cela amène comme changement dans la vie des hommes et quel témoignage eux-mêmes ont-ils rendu de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Alors, on n'avait pas pu aller au bout parce que c'eût été aller trop vite et certainement indigeste. Alors, on avait coupé ce message en deux et on avait abordé les deux premiers personnages en rappelant, on peut relire ces textes si vous le voulez, ce sera notre point de départ. Donc, les deux points de départ, c'était dans les psaumes, psaume 36. Verset 8, psaume 36, verset 8. Psaume 36 et verset 8. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, à l'ombre de tes ailes. Les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen. Chapitre 37, verset 23. Psaume 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Gloire à Dieu. Psaume 103, enfin, et du verset 1er au verset 5. Psaume 103, celui-ci également est un psaume de David. Psaume 103 et verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Voilà ce que nous pouvions dire, et ce sont trois psaumes de David. Voilà comment nous avions intitulé, démarré plutôt notre méditation. Dans tous ces textes, il est parlé d'être rassasié, il est parlé d'être comblé, il est parlé d'être totalement satisfait jusque dans la vieillesse. C'est-à-dire que dans la vieillesse, Dieu n'a pas fait défaut, Dieu était toujours présent, Dieu était là pour bénir. Maintenant, je vais vous les citer, on ne va pas les chercher ensemble, mais je vous rappelle ce que vous avez à l'écran concernant ces quatre personnages. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jour, 175 ans, âgé et rassasié de jour. Isaac expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jour, et lui, il a été jusqu'à 180 ans. Après, on a l'histoire de David, qui lui aussi, on y viendra tout à l'heure, lui aussi est mort dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesses et de gloire. Et je voudrais qu'on lise, comme symbole un seul de ces quatre personnages, la fin de Job. Job chapitre 42, puisque nous terminerons en méditant sur Job à nouveau. Job chapitre 42, et à partir du verset 12. Job, chapitre 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketsia, et à la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et enfin, Job mourut, âgé et rassasié de jours. Alors j'en reviens très rapidement pour qu'on s'en souvienne. Je résume ce que nous avions dit. Abraham, on peut le considérer comme le pionnier, c'est-à-dire qu'il a inauguré une voie nouvelle. On a découvert avec Abraham des choses un petit peu nouvelles, à savoir que l'on pouvait compter sur Dieu, on pouvait lui faire confiance. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, Dieu est fidèle et Dieu s'occupera toujours de nous. Sa vie a témoigné d'un caractère bien trempé quand même, parce que, je ne sais pas si vous l'auriez fait, mais son engagement avec Dieu est quand même assez incroyable. Dieu l'appelle, ne connaît pas la voix de Dieu. Pour la première fois de sa vie, il entend la voix de Dieu. Il a 70 ans passés. Et Dieu lui dit, quitte ton pays, va-t'en de l'endroit où tu habites et pars dans un pays que je te montrerai. Dieu va lui rappeler également que dans ce pays où il devra se rendre, il n'aura aucune propriété, il ne disposera de rien, il vivra sous des tentes, il ne sera jamais propriétaire de rien du tout, étranger et voyageur. Avec tout ce que cela sous-entend, derrière le côté migrant, aujourd'hui on est sensibilisé par cela, quand un migrant arrive quelque part, il n'est jamais bien accepté, parce qu'il vient manger le pain de ceux qui sont là, il vient prendre le travail de ceux qui sont là, etc. Alors même si on n'a pas de détails, ça n'a pas été facile pour Abraham, il a dû se battre, il a quelquefois même dû, à notamment une période, lever parmi ses serviteurs une bonne centaine de courageux pour aller faire la guerre à des rois qui avaient pillé dans un village pas loin et qui avaient emmené captifs pas mal de personnes et notamment son neveu Lot. Il a mené des batailles et il en est sorti vainqueur. Il a mené des batailles contre des hommes, contre des ennemis, il en est sorti vainqueur. Il a mené des batailles avec Dieu, il en est également sorti vainqueur. Un jour, des anges viendront vers Abraham en lui disant, cacherons-nous à Abraham ce que Dieu a décidé de faire. Les villes de Sodome et Gomorre vont être détruites parce qu'il y a une grande manifestation d'immoralité dans ces villes, c'est monté jusqu'au ciel, ça a atteint son comble, c'est terminé. Sauf que dans l'une de ces villes, de ces deux villes, habite son neveu. Alors Abraham va plaider. S'il n'y avait que 50 justes, est-ce que tu ne pourrais pas pardonner? S'il n'y en avait que 45, 40, 35, 30, 20, 10, et dans le fond, dans cette lutte, il en sortira vainqueur également, parce que Dieu fera grâce à Lot, parce qu'il n'y avait même pas 10 justes dans cette ville. Mais il fera sortir Lot avant de détruire malheureusement cette ville. On voit que Abraham a fait des erreurs aussi, mais malgré ses erreurs, Dieu l'a aidé, Dieu l'a encouragé, Dieu l'a béni. C'est un homme qui va connaître le brisement. Alors que Dieu lui a fait la promesse qu'ils auront un enfant avec son épouse Sarai, ils vont douter. Ça fait 10 ans que la promesse a été faite. On en parlera cet après-midi d'ailleurs. Ça fait 10 ans que la promesse a été faite. Et voilà qu'à 80 et quelques années, toujours pas d'enfant. Alors on va penser qu'il fallait certainement obtenir un héritage, un héritier autrement. Et voilà que l'épouse d'Abraham va lui donner sa servante en disant « j'aurai un fils, mais entre guillemets par une mère porteuse ». Donc « va vers ma servante, il la prendra pour femme, un enfant naîtra Ismaël ». Et très rapidement, la Bible nous dit qu'il va y avoir un conflit. Parce que Dieu, quand il promet, il accomplit ses promesses, non? Vous le croyez cela? Le seul problème, le seul hic, c'est qu'on ne sait jamais quand. Mais il l'accomplit toujours. Et quelque temps plus tard, Sarah sera enceinte, puisque Dieu l'avait prédit, et un enfant naîtra, Isaac, et là il va y avoir un conflit, parce que Sarah ne veut pas partager l'héritage entre cet enfant qui n'est pas le sien, mais qui est quand même le fils de son mari. Donc il y a deux enfants, deux demi-frères, et elle ne veut absolument pas partager. Et Dieu dira à Abraham, laisse, c'est comme ça, il faut que les choses s'accomplissent ainsi. Abraham va être un homme brisé quand il devra envoyer vers le désert son propre fils Ismaël. Le reverra-t-il un jour? Il n'en sait rien. Donc il va connaître des moments difficiles. Quand Dieu va lui demander de sacrifier celui qui lui reste, Isaac, sur le mont Morija, il fallait quand même le faire. C'est un homme qui va connaître des tempêtes. C'est un homme qui va être ébranlé. Et c'est toujours difficile de passer au-dessus de ces choses-là. Mais la Bible nous montre un homme totalement consacré, un homme totalement engagé avec Dieu, totalement soumis à la voix de Dieu. Dans le fond, c'est un exemple. L'apôtre Paul dira qu'il sera le père de la foi, notre père à tous. Et quelque part, il a ouvert une voie, il a tracé une voie, on pourrait dire par excellence, pour chacun d'entre nous. Il va mourir à 175 ans, vous l'avez compris, avec une vie bien remplie, mais je suis quand même estomaqué, j'en suis même sidéré, mais admiratif, de me dire que quand il regarde sa vie, il se dit finalement j'ai eu une belle vie. Est-ce que vous auriez dit la même chose? Après avoir vécu ce qu'il a vécu, et si vous voulez plus de détails, allez dans la Bible, c'est assez bien expliqué. C'est un homme qui a eu des hauts et des bas. Il est monté très haut, mais il est descendu très bas. Sauf qu'à la fin de sa vie, il se souvient des bonnes choses et de la fidélité de Dieu. Et j'aimerais qu'à la fin de notre vie, on se souvienne de la fidélité de Dieu. Et qu'on puisse dire, nous aussi, le jour où nous partirons, je suis rassasié de jours, ma vie a été belle, Dieu m'a béni et Dieu m'a toujours gardé. Le fils Isaac va connaître quelque chose de particulier lui aussi. C'est un privilégié, lui. C'est quelqu'un qui a été l'enfant chéri, l'enfant unique. Il a un demi-frère, hein. Mais une espèce d'enfant unique, très étrange d'ailleurs, parce que l'héritage va lui être totalement consacré. Ça va être pour lui. Il va profiter d'un bel héritage. Il porte un nom qui n'est pas rien, fils de. Ça valait le coup d'être fils d'Abraham, certainement. Ça peut ouvrir des portes. Le papa est quand même un homme très intelligent parce qu'il va éloigner les conflits très rapidement. Et la Bible dit, notamment au chapitre 25, qu'il va éloigner tous ceux qui auraient pu être prétendants de cette fortune familiale, etc. Il va les éloigner, tous, les uns les autres. Il va laisser cet homme gérer un avenir, gérer un héritage, en lui donnant toutes les clés. Pas toujours évident à faire. C'est un homme qui va faire des expériences, lui aussi, bonnes et mauvaises. Lui-même se mariera. Il tombera fou amoureux de sa femme dès qu'il la verra. Et quelque temps plus tard, elle est enceinte, elle a des jumeaux. Belle expérience, certainement, pour toutes celles qui l'ont vécue. Sauf qu'elle est un peu intriguée, elle est un peu inquiète, parce qu'il semblerait qu'à l'intérieur de son ventre, les deux enfants se battent. Elle dit, c'est pas possible, je rêve, c'est pas possible. Et puis il va y avoir une prophétie qui va être apportée et qui va la rassurer. À l'époque, on ne faisait pas d'échographie, sauf, ou alors on faisait une échographie spirituelle, céleste, divine. Et le fabuleux échographe qui était au ciel va révéler à cette maman, ne t'inquiète pas, en fait, tu as l'impression que ça se bat dans ton ventre, mais c'est exactement ça. Alors ne t'inquiète pas, les deux enfants qui sortiront, ce sera deux garçons, et quelque part, ce sera deux peuples. Deux peuples qui ne vont pas s'entendre au départ, mais chacun sera béni. Chacun suivra sa voie, chacun prendra une direction, les deux seront bénis. Alors vous êtes un peu rassurés, mais moyennement quand même. Hein. Et là, vous dites, on ne peut pas faire une amniosynthèse pour voir s'il n'y a pas quand même quelque chose d'un peu plus précis à trouver. Non, non. La réalité, c'était ça. Ça n'allait pas être simple. Sauf que, eh bien, on peut toujours se dire, oui, mais ça, on n'y est pas encore, on verra. S'est-il rassuré, Isaac? Je ne sais pas. Mais Isaac a tordu un peu le sens de cette promesse. J'aimerais vous dire une chose, une petite parenthèse. Si Dieu vous dit quelque chose, prenez-le comme il vous le dit. Et n'entordez pas le sens. Parce que même si vous retournez l'histoire, même si vous retournez le sens des mots, même si vous retournez l'explication parce que, dans le fond, à l'endroit, ça ne vous plaît pas, alors vous préférez la voir autrement, de toute façon, Dieu la remettra à l'endroit un jour ou l'autre. Et vous vous serez peut-être abusé, vous serez peut-être rassuré, et devant l'évidence, ça risque d'être assez dur à avaler, ça risque d'être un coup difficile à prendre. Il vaut mieux accepter ce que Dieu nous dit. Il aurait dû accepter Isaac, qu'effectivement il y aurait des conflits. Et c'est ce qui s'est passé. L'un sera plus ou moins attaché aux choses de Dieu, l'autre pas du tout. Et la Bible nous montre qu'entre Jacob et Ésaü, ça va être la guerre, très rapidement. Même le papa va essayer de détourner la promesse de Dieu en bénissant son aîné, parce que c'était son chouchou, c'était son préféré. Il préférait Ésaü à Jacob, c'est comme ça. Il n'aurait pas dû en préférer un sur les deux, évidemment. Mais il n'y avait pas, finalement, il n'y avait même pas de malaise, parce que le cadet était le préféré de sa maman. Donc l'un dans l'autre, chacun avait le sien. Et quand Isaac détournera la bénédiction pour la donner à l'aîné plutôt qu'au cadet, parce que Dieu avait dit que c'était le cadet qui aurait la plus grande part, la plus grande bénédiction, eh bien les enfants vont lui jouer un tour malgré lui. Sa propre épouse va lui jouer un tour malgré lui, et alors qu'il est quasiment aveugle et qu'il ne voit pas bien, il nous est dit que le cadet viendra se faisant passer pour son frère, maquillant son corps, en revêtant un vêtement de peau, essayant de maquiller sa voix. Bref, ils vont piéger le père, la maman et Jacob vont piéger le père. Quand le fils aîné arrive quelque temps plus tard et qu'il entre dans la chambre pour la bénédiction, le papa lui dit « Mais tu es qui ?» Et là, il comprend la supercherie. Et la Bible dit qu'il a été saisi d'une violente émotion. D'autres traductions disent « Il tressaille d'un grand tressaillement très fort. Il sera saisi d'une frayeur extrême, d'une terreur extrême. » Certains ont pensé qu'il était en train de faire une attaque cardiaque. Il a failli passer l'arme à gauche. Dieu lui a fait grâce. Sauf qu'il a compris qu'on ne peut pas aller contre les plans de Dieu. Il faudra des années, presque 20 ans, pour que les enfants se réconcilient. Et gloire à Dieu, ils se sont réconciliés. Alors qu'Ésaü voulait assassiner son frère, et que son frère Jacob va s'enfuir. Les années vont passer. D'ailleurs, quand on se moque des autres, un jour vous trouvez plus fort que vous. Hein. Un jour vous trouvez votre maître, en toutes circonstances. Et Jacob a trouvé son maître. Et donc il est revenu de ses entourloupes, il est revenu de ses tromperies, il est revenu de ses mauvais penchants, mais surtout il a été brisé par Dieu. Il a rencontré Dieu. Quelquefois on pense toujours s'en sortir, mais on n'a jamais rencontré Dieu pour autant. Et quand on rencontre Dieu, on réalise que sans sa grâce, rien n'est possible. Et aujourd'hui, vivre sans sa grâce, ce n'est pas vraiment réalisable. Ce n'est pas bien possible, cela. C'est une nécessité, vivre avec sa grâce. Et les deux frères vont faire un chemin l'un vers l'autre. Par la grâce de Dieu, ils vont se réconcilier et le papa va vivre cette réconciliation. Alors je comprends mieux. Après avoir connu le brisement lui aussi, après avoir connu finalement ses tourments, je comprends mieux qu'il puisse dire à 180 ans, « Je meurs âgé et rassasié de jour. » Rassasié, comblé. Rassasié, béni malgré tout. Il y a eu des moments difficiles, mais les bons moments ont été plus forts que les moments difficiles. Et bien aimé, dans nos vies, les bons moments avec Dieu seront toujours plus forts que nos mauvais moments dans la vie. Attachons-nous à Dieu, il est un Dieu fidèle. Maintenant, j'en viens au troisième personnage, on va s'arrêter un peu plus longtemps dessus, David. David, je l'ai appelé le combattant, parce que rien n'a été simple dans la vie de David, très rapidement. La semaine dernière, d'ailleurs, le pasteur qui était avec nous nous en a parlé. Le frère Koudougou nous expliquait cela par rapport à Goliath, le fameux combat contre Goliath. Vous vous souviendrez que avec Goliath, il va susciter immédiatement la colère et la jalousie de ses frères. Il leur a rien demandé. Il arrive sur le champ de bataille. Il faut se battre contre le géant alors que ça fait 40 jours qu'il n'y en a pas un qui ose lever l'épée et courir vers Goliath parce qu'on a tous peur du géant. Et David arrive, tout frais moulu, il a 17 ans. Il n'est certainement pas soldat, il n'est pas guerrier, il n'a pas d'armure, il n'a pas d'épée, il n'a rien du tout. Mais devant l'offense, devant la colère du géant, devant le mépris du géant, devant les mots terribles, parce qu'il est en train de maudire Israël, il est en train de maudire le peuple de Dieu, et il maudit ceux qui s'attachent à Dieu. Son sang ne fait qu'un tour, et il dit, on ne peut pas laisser dire quelque chose comme ça. Il décide d'aller à la bataille. Vous connaissez le récit, il a remporté la victoire. Il a coupé la tête du géant, une seule pierre, pour terrasser le géant à terre, en plein front. Il est arrivé, il a pris l'épée de Goliath et il a tranché la tête du géant. Il a remporté la victoire. Ça a galvanisé le peuple et ce jour-là, Israël a battu les Philistins. Le roi, Saül, a été subjugué par ce jeune talent. Si c'était aujourd'hui, il serait passé à un incroyable talent. Un frondeur qui est capable avec une seule pierre de toucher un impact à une distance comme ça et surtout de mettre à terre un géant, c'est du jamais vu. Sauf que, eh bien, Saül, lui, a vu la perle rare et il l'a mis sur son armée. C'est devenu son gendre, d'ailleurs. Il l'a gardé tout près de lui. Sauf que tout près, c'est pas forcément tout bien. Et tout près, c'est pas forcément tout facile. Et au bout d'un moment, comme ce David, tout lui réussissait, il y en a un qui en a pris ombrage très rapidement. Donc avec Goliath, il a enflammé la guerre, la colère de ses frères. Mais après Goliath, il a suscité la jalousie du roi. Et la Bible nous dit que le roi va commencer à le prendre en grippe. C'est son gendre. À tel point qu'il va essayer deux fois de l'assassiner. Vous imaginez un peu? Il va essayer, on se croirait du temps de l'Empire romain. Brutus, toi, mon fils. Bref, c'est effrayant quand même, en arriver jusque-là. Alors David va connaître des moments difficiles avant le trône. Il va connaître la trahison. Il va connaître les manigances. Il va connaître les menaces de mort. Et il va s'enfuir, il va s'enfuir, il va s'enfuir. Et ça va durer pendant des années, jusqu'à la mort du roi Saül. Et quand le roi Saül meurt, parce qu'il avait été oint comme roi du temps du prophète Samuel, il reviendra et il gouvernera 7 ans à Hébron et 40 ans en tout, le reste à Jérusalem. Et pendant qu'il régnera, on a presque envie de dire que ça y est, il est arrivé sur la dernière marche, maintenant ça devrait être facile. Eh bien, détrompez-vous, ça n'a jamais été facile. Quasiment du début jusqu'à la fin de sa vie, ce ne seront que guerre, guerre, guerre et guerre. On pourrait s'en passer, mais lui n'y arrivera pas. C'est un homme, d'ailleurs, la Bible dit qu'il servira Dieu. Ça peut paraître étonnant de cette manière-là, éloignant les ennemis, et plutôt donnant un territoire, c'est comme ça qu'il faut le voir, au peuple de Dieu et affermissant ce règne en le sécurisant. Il va commettre des erreurs, plus que des erreurs d'ailleurs. Il va commettre des tragédies, honte à David. Il va aimer une femme qui n'est pas la sienne. Il va coucher avec elle. Et il va tuer son mari qui n'était autre qu'un de ses généraux qui était en train de se battre pour lui au front. Par une sorte de manigance, il va ramener cet homme à la maison. Et voyant que sa tromperie ne marche pas, parce qu'après avoir envoyé cette femme qui est tombée enceinte, il va vite ramener le mari en disant « S'il rentre à la maison, ni vu ni connu, personne ne saura que c'est moi, on croira que c'est le mari, etc. » Sauf que le mari, qui a ses troupes au combat, ne veut pas rentrer dans sa maison, ne veut pas prendre, entre guillemets, du bon temps avec sa famille, son épouse. Non, c'est pas possible, il faut que je retourne au combat. Alors David renverra cet homme avec une lettre cachetée en disant « Tu veux aller au combat, eh bien retourne-y et tu reviendras plus jamais. » Et sur cette lettre, il ordonnait à son général en chef, Joab, de mettre cet homme au plus fort du combat. Et quand l'ennemi serait tout près, que tout le monde s'écarte de lui et qu'il meure. Froidement, il assassine son ami. Froidement, il manigance ce plan épouvantable. Quelque temps plus tard, on lui annonce la mort de cet homme, Uri. Et lui, il va faire faussement, tragiquement, semblant de se plaindre en disant « Bah, que voulez-vous ? La mort frappe d'un côté et d'un autre. » Mais c'était un héros. Honte à David d'avoir menti comme ça. Il a menti aux hommes, il a menti à Dieu. Il mentira à cette femme. Il ne lui dira pas ce qu'il en est. Et il va même l'épouser. Comme elle est veuve, il fait un acte de charité, il l'épouse. C'est abominable. C'est abominable. Quelque temps plus tard, l'enfant va naître, mais il ne va pas bien. Il est mal en point. On s'étonne, on ne comprend pas. David pleure, gémit, crie à Dieu. Il refuse de s'alimenter. Il est vraiment dans la détresse. Il n'était pas autant en peine quand il a fait assassiner Uri. Hein. Mais là, il est vraiment dans la peine. C'est son fils. Hein. C'est son fils. Et quelque temps après, l'enfant va mourir. Et un prophète dira, le prophète Nathan dira à David, « C'est toi qui es la cause de tout ce drame. C'est toi le fautif. » Alors David aura la vie sauve simplement parce qu'il va se repentir, sincèrement. Ça peut paraître paradoxal, mais Dieu dira que David était un homme selon son cœur. Comme dira quelqu'un, c'était un homme qui péchait de tout son cœur, malheureusement. Mais c'était quelqu'un qui s'humiliait de tout son cœur aussi. Et heureusement pour lui, il a été sincère dans son repentir. Ça lui a valu cher quand même. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que toute son histoire de famille va être une histoire malheureuse. Quelque temps plus tard, il aura d'autres enfants qui vont grandir. Il aura plusieurs épouses, plusieurs demi-frères. Et il nous est dit que l'un d'entre eux, Amon, va tomber amoureux de sa demi-sœur. Fou amoureux de sa demi-sœur. Et c'est quand même sa demi-sœur, Tamar. Et il va là aussi se rendre malade, mais jusqu'à en crever, jusqu'à en mourir. Donc un de ses amis va lui dire, écoute, essaye d'arranger la chose. Et puis tu fais venir ta demi-sœur et tu lui expliques que tu l'aimes. Sauf que quand il va expliquer à sa demi-sœur qu'il est fou amoureux d'elle, elle n'aime pas. Elle n'aime pas du tout. Elle est en train de lui dire, écoute, tu as un problème dans ta tête, moi j'ai pas du tout envie de me marier avec toi. Et là, il va faire l'irréparable. Il va la violer. Il va lui sauter dessus, il va la violer. Elle va s'en aller en hurlant, pauvre femme, pauvre jeune femme. Sa vie est brisée maintenant. Sa vie est brisée. C'est la sœur d'un autre fils qui s'appelle Absalom. Et quand Absalom sait ça, la colère lui monte, imaginez donc. Mais il va dire à sa sœur, reste tranquille, je réglerai l'histoire. Le temps va passer, le père doit se dire, bon, ça a l'air de se tasser. 2 ans plus tard, la vengeance est un plat qui se mange au froid. Absalom va ordonner que l'on fasse venir tous ses frères. Il veut organiser une grande fête. Et il avait demandé à ses serviteurs, que quand Amon, son demi-frère, serait là, au signal donné, on le tue, on l'assassine. Et c'est ce qui va se passer. David va pleurer un deuxième fils. Quelque temps plus tard, ça paraît incroyable, le fameux Absalom va lever une armée contre son père. Vous vous rendez compte? Il va lever une armée contre son père et lui aussi mourra dans sa révolte. 3e fils qui meurt. Et juste avant que David ne meure, un 4e, Adonija va lever la main contre le trône, parce qu'il était dit que le trône irait à un autre fils, le fameux Salomon, qui lui régnera. Et quand il se trame à nouveau un complot pour ravir, prendre le trône, et s'il fallait tuer Salomon, alors on va expliquer tout cela à David, et rapidement, on va mettre sur le trône Salomon, et ce sera au détriment de la révolte de cet Adonija qui mourra lui aussi. Quand vous passez par 4... infanticide ou en tous les cas assassinat, mort de vos enfants, comment vous vous relevez de ça, vous? Comment vous surviez à cela? 40 ans de règne, 40 ans de guerre, 40 ans de règne, jamais tranquille, à fuir, à échapper, à se sauver, etc. Mais c'était un homme intègre, c'était un homme qui connaîtra la haine de ses propres enfants, la violence qui s'arrêtera jamais finalement. Il va pleurer, il va pleurer, il va pleurer, mais quel témoignage. Je lisais tout à l'heure dans le psaume 37, c'est lui qui a écrit cela. Dans le psaume 37, vous vous souvenez? J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, Dieu est compatissant, il prête, et sa postérité est bénie. Vous vous rendez compte? C'est David qui lui-même avait expliqué cela, et on l'avait lu au chapitre 36, quand il parlait de la fidélité de Dieu. Ta bonté est grande, combien est précieuse ta bonté. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge, et ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. David meurt âgé et rassasié de jours. J'ai écrit, il meurt heureux et comblé. Je crois qu'il n'y a que Dieu qui est capable de faire un tel miracle. Quelquefois, la vie nous a marqué une cicatrice. Elle est tellement profonde que vous l'aurez toute votre vie. Il y a un chanteur, j'ai oublié son nom maintenant, un artiste américain qui est assez âgé. Il est très reconnaissable. Il a une grosse balafre là. Vous connaissez, hein, le visage est très marqué. C'est un noir américain. Bon, ça fait longtemps, voilà, oui, signe, non, comme ça. Ça fait très longtemps qu'il a cela. Il ne pourra jamais enlever ça. Ça veut dire quelque chose, c'est son histoire. Si vous lui demandez, mais qu'est-ce que ceci, il pourra vous expliquer. Hein. Et si on ne sait pas, si on ne lui pose pas la question, on retiendra certainement le visage à cause de ses marques. Il y a des vies qui marquent. Et on ne peut pas enlever les marques. Elles sont là. Comment est-ce que vous quitterez la terre ? Aigri, abattu, meurtri, terrassé, effondré, laminé, ou alors heureux et comblé, parce que Dieu aura guidé votre vie jusqu'à la fin. Si on ne sait pas par quelle route il nous faut passer, on sait que le Seigneur nous a précédés sur cette route-là quand même. Non ? On sait qu'il est devant nous, miraculeusement il est avec nous, mais il protège nos arrières aussi. Il nous porte sur ses mains. Alors béni soit Dieu pour le témoignage de David, le témoignage de la foi. Il n'a jamais abandonné Dieu, quoi qu'il ait surmonté, quoi qu'il ait vécu. Et je termine avec Job, le dernier de ces quatre cas. Je l'ai appelé la victime. C'est moins glorieux que le reste. Abraham, c'était le pionnier. Isaac sera le privilégié, mais il fallait asseoir ce qui avait été donné. Ce n'était pas facile. David, lui, c'est le combattant. À la force de son épée, il a installé la paix. Et puis, il a su s'humilier quand il le fallait. Mais j'en viens à Job. Job a été utilisé comme exemple par Dieu. Quand le diable vient trouver Dieu et que Dieu lui dit « Qu'est-ce que tu fais ? D'où viens-tu ? » Et le diable dira « J'ai parcouru la terre pour voir un petit peu comment ça se passait. » Et Dieu dit « Tu as remarqué mon serviteur Job ? Il n'y en a pas deux comme lui. Il est extra. » Quelquefois, certains diraient « J'aimerais bien que Dieu parle un peu moins de moi. » J'aimerais bien être un peu plus discret. Parce que là, il n'a pas été discret. Et quand le diable entend Job, il dit « Ah tiens, ouais, mais c'est facile pour Job. Tout lui réussit. » Mais c'est vrai. Lisez le début du livre de Job. Tout marche pour lui. Il n'a pas de problème, il n'a pas de difficulté. Mais je suis sûr que si tu lui enlèves tous ses trésors, tout ce à quoi il tient le plus, sa famille, ses enfants, ses richesses, je suis sûr qu'il te maudit en face. Et Dieu dira, d'accord, vas-y. Quelque temps plus tard, le diable revient devant Dieu. Parce que, entre parenthèses, Job n'a pas maudit Dieu. Il a dit, Dieu donne, Dieu reprend. Je continuerai à bénir Dieu, malgré tout. Dieu m'a donné pendant des dizaines d'années. J'en ai profité. Mais si je dois continuer à vivre sans ces choses-là, ce n'est pas grave. Il me les a données. Gloire à Dieu. Ma vie est toujours entre les mains de Dieu. C'est remarquable. Une deuxième fois, le diable revient. Et Dieu dit, alors Job, il tient toujours le coup. Hein? Et on imagine Job dire, chut, j'en ai assez sur le dos. Hein? Ça ne peut pas s'arrêter quand même. Et Dieu insiste, regarde. Tu pensais qu'il allait maudire, il ne l'a pas fait. D'accord, peau pour peau. Un homme donne tout pour sa survie. Et comme tu lui as enlevé à la périphérie, touche-le personnellement. Et là, je suis sûr qu'il te maudit en face. Et Dieu dira, tu m'excites et tu m'agaces à vouloir le laminer sans fin. Mais je t'accorde encore cela, zut. Je t'accorde encore cela. Seulement, tu ne le tueras pas. Tu épargneras sa vie. Et voilà qu'il est atteint d'un ulcère malin, sommet de la tête, à la plante des pieds. Dramatique. Et quand sa femme voit cela, même sa femme qui en peut plus, combien de temps durera cette épreuve encore. Elle finit par craquer elle aussi et elle susurre, elle invite, elle encourage Job à la mort en disant « Écoute, il vaudrait mieux que tu meurs. Hein. Je peux même, et peut-être qu'on pourrait partir ensemble. Et si on se suicidait ?» Il y a des années de cela, j'ai connu un vieil homme. Il était marié avec son épouse, une vieille femme. Et ce vieil homme a connu des moments difficiles. Son épouse tombait dans la maladie liée à la vieillesse. Et il n'arrivait plus à assumer cela. Alors un jour, il téléphonera à sa fille pour lui dire adieu. Ils vivaient à 40 kilomètres l'un de l'autre. Et dans le fond, la manière dont il lui a parlé, cette fille s'est angoissée immédiatement. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Elle en parle à son mari. Et le gendre descend rapidement. Il téléphone, ça ne répond plus. Ils descendent rapidement. Et quand ils arrivent à la maison, porte fermée, ils sonnent, personne ne répond. Ils appellent la police, ils appellent les pompiers. Et le mari avait administré à son épouse une grosse dose de médicaments. Il en avait pris la même chose. Il s'était allongé sur le lit. Il avait prémédité de se suicider tous les deux. Et ça a été l'intervention rapide, finalement, des pompiers qui a été leur survie parce qu'ils ont été hospitalisés, lavage d'estomac, etc. Ils ont survécu tous les deux. C'est dramatique, non ? D'arriver à la fin d'une vie et de se dire, oh, on se suicide, on meurt, c'est fini, la vie s'arrête. Je me dis que l'épouse de Job, elle est arrivée à la limite. Ça ne peut pas continuer comme ça. Maudit Dieu et meurt. Job a encore de la ressource. Il fallait en avoir. Il a encore de la ressource. Et il lui dit, mais non, tu dis n'importe quoi, on ne peut pas faire ça. Quoi qu'il advienne, jamais, 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 je ne maudirai Dieu. Maintenant, on va s'arrêter quelques instants sur ce que sera cette épreuve. Parce qu'il est écrasé, il est littéralement broyé, laminé, il est anéanti. Et dans ces cas-là, à votre avis, quand on en est là, qu'est-ce qui est le pire? Je me pose la question, quand on n'en peut plus, quand on a l'impression que c'est au-delà de nos forces, qu'on a été au bout du bout du bout du bout, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on peut attendre encore? Dans le livre de Job, lisez avec moi chapitre 4. Dans le livre de Job, chapitre 4, des amis viendront le trouver et des amis vont discuter avec Job. Ils étaient censés l'encourager, ce ne sera pas trop réussi. Par contre, ils vont pas mal l'accuser, ça c'est sûr. Au chapitre 4, on s'arrêtera juste sur le discours d'Éliphaz. C'est quand même terrible quand vous passez par des moments difficiles de se voir reprocher de ne pas pratiquer ce que l'on prêche. Vous êtes chrétien, vous croyez en Dieu, vous avez fait la paix avec Dieu. 10 fois vous avez encouragé autour de vous dans votre famille. Eh, te décourage pas, attends-toi à Dieu, Dieu va t'aider, Dieu va te bénir. Et maintenant c'est vous qui êtes dans la tourmente. Et voilà comment les autres vous jugent. Chapitre 4, verset 1er. Si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant, qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-elle pas ton intégrité? Le pauvre Job, il n'en peut plus. Et son ami est en train de lui dire, je comprends pas là. Tu dis toujours aux autres de tenir fort, et quand toi, il t'arrive un truc, tu disparais. Pardonnez du peu, mais ce n'est pas un truc qui lui est arrivé quand même. Hein. Et puis, il n'a pas disparu, hein. Il est quand même toujours là. Sauf qu'il y a des paroles qui blessent. Il y a des paroles qui troublent quand ça ne va pas. On ne voudrait jamais les entendre. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous les entendrez toujours. On préférait ne jamais les entendre. Vous ne savez pas comment et ni qui et de qui ça viendra, quelquefois même de ceux de qui vous ne l'attendez pas. Ils sont un peu insensés. D'ailleurs, Job les considéra comme des consolateurs fâcheux. Vous auriez mieux fait de rester à la maison que de venir me dire ça. N'empêche qu'ils le disent. C'est douloureux. Hein. Un peu plus loin, cet homme argumente du verset 7 au verset 11 et il dit, Job, on ne récolte que ce que l'on sème. C'est pas évident, parce que là, il a récolté ce qu'il n'avait pas semé. Verset 7. « Cherche dans ton souvenir. Quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité, qui sèment l'injustice, en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère, le rugissement des lions prend fin, les dents des lionceaux sont brisées, le lion périt faute de proie, et les petits de la lionne se dispersent. Eh Job, si t'en es là, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, j'ai jamais vu le juste abandonné de Dieu. Et toi, je vois que tu es abandonné de Dieu, tout te tombe dessus, cherche dans ton souvenir. Il y a certainement eu un problème quelque part. C'est la dernière chose que vous avez envie d'entendre ce jour-là, quand ça ne va pas. Ce n'est pas la dernière chose que vous entendrez malheureusement. Je continue verset 12. Entendre le témoignage d'Éliphaz qui va se gonfler un petit peu. Lui va parler de son expérience. Et lui va dire, mon expérience fait preuve d'approbation divine. Comme je vais bien, ça prouve que Dieu me bénit, que Dieu est avec moi. Ce n'est pas toujours sûr. Verset 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mon oreille en a reconnu les sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissèrent, une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement, « L'homme serait-il juste devant Dieu ?» Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau? Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours, mais nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Lui se met au-dessus, lui dit, tu vois Job, ce qui t'arrive, ben c'est écrit, le méchant meurt. Et Job aurait pu le dire, et toi tu es comment là? Ben comme je vais bien, c'est que moi je suis juste. Et souvent on a résumé la grâce de Dieu à cela. Je vais bien, c'est que Dieu est avec moi. Je vais mal, c'est que Dieu n'est plus avec moi. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Parce que quelquefois, je vais bien et Dieu n'est pas avec moi. Et d'autres fois, je vais mal et Dieu est encore et toujours avec moi. Parce que Job était encore et toujours avec Dieu. Rien, jusqu'à ces versets, nous dit que Job a désobéi à Dieu. Rien, rien. Alors, quand vous lirez tout le texte, tout le livre de Job, il se lit très facilement. Je vous encourage à le lire ce soir, demain ou plus tard. Comme ça, vous avez bien ça à l'esprit. Vous verrez que Dieu est toujours fidèle, que Dieu est toujours là. Dans ces moments d'épreuve et de difficulté, il a eu des moments difficiles en disant « Mais pourquoi? Je ne comprends plus !» Mais jamais, jamais, jamais. Et il n'a été trop loin. Quelquefois, on est tellement écrasé qu'on dirait des choses qui nous échappent. Mais Dieu est fidèle. Maintenant, le Éliphaz, il est énervant. Parce qu'il va même dire à Job, moi je vais te donner la solution, je vais te dire ce que tu dois faire maintenant. Chapitre 5, verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Et qu'est-ce qu'il fait Job? Il ne le fait pas ça. Et verset 17. Heureux l'homme que Dieu éprouve, châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant quand Dieu te corrige, quand Dieu te remet d'aplomb. Mais zut, Job, il n'avait pas besoin de tout cela malgré tout. J'en viens à la fin, on l'a lu ensemble. Vous avez vu de quelle manière Dieu a rétabli Job. Job vivra entre 180 et 210 ans peut-être. Mais il meurt âgé et rassasié de jours. C'est formidable. D'entendre ça de la bouche de Job, je trouve ça incroyable. On lui a reproché de ne pas être vrai, de récolter que ce que l'on semait, que les expériences étaient le baromètre de la grâce divine, et s'entendre faire la leçon par quelqu'un qui aurait mieux fait de se taire, c'est épouvantable. Mais cet homme a été droit jusqu'au bout, et Dieu l'a comblé, le témoignage de la foi. D'ailleurs, vous savez quoi? Dieu dira même à Éliphaz, Dieu dira même à ses quatre amis, « Allez vers Job ». Et demandez à ce que Job prie pour vous pour que je pardonne ce que vous venez de faire maintenant. Et ces hommes auront la vie sauve parce que Job encore, le persécuté, hein, priera pour ses persécuteurs. Tout à l'heure, on a chanté quelque chose. Pardonnez pour être pardonné. Ne l'oubliez pas. Si vous ne pardonnez pas, le pardon de Dieu ne viendra pas sur vous. Je conclus avec ce que l'on avait conclu également il y a 15 jours de cela. Leur vie n'a pas été facile pour aucun d'eux, sauf qu'ils avaient une relation vivante et réelle avec Dieu, et ça, ça les a tenus. Ils ont évité de livrer des batailles inutiles. C'est Ésaïe qui nous rappelle ceci. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Dès le matin, dira l'homme de Dieu, je me rassasierai de ta face, de ton image. Tous les matins, ouvrons les yeux en disant, Seigneur, cette journée, je la mets devant toi et je veux me rassasier de tes œuvres. Je veux voir ton œuvre dans ma vie. Je veux voir tout ce que tu es capable d'accomplir pour moi. Ils ont compris, ces quatre hommes, ils ont compris, tous ceux qui les ont suivis. Ils ont compris qu'ils avaient eu affaire à un voleur. Le diable est un voleur. Dieu nous donne tout et le diable nous vole tellement de choses. Il nous vole la santé. Il nous vole quelquefois la famille. Il nous vole notre joie. Il nous vole la tranquillité. Il nous vole la sérénité, il nous vole tellement de choses. Finalement, ces hommes-là ont appris à trouver les ressources nécessaires pour survivre, pour ne pas dire pour vivre. Ils les ont trouvées en Dieu. Je me rassasierai de ta face, ô Éternel. Vous vous souvenez ce qui s'est passé quand Jésus s'est retrouvé devant deux foules affamées? On n'avait pas de quoi les nourrir. 4000 hommes d'un côté, 5000 hommes de l'autre, sans compter femmes et enfants, comptait entre 10 et 15 000 personnes à chaque fois. On n'avait pas de quoi les nourrir. On avait 5 pains de poisson, quelques petits poissons, 7 pains, pas grand-chose. Sauf que Dieu est un Dieu de multiplication. De multiplication. Et la Bible dit dans les deux textes, et j'aime beaucoup ces passages, dans les deux textes, il est dit que tous ont mangé et ont été rassasiés. Et on en a même eu de reste. On a emporté 7 et 12 corbeilles pleines de ce qui restait. Ils ont été rassasiés, c'est ça qui m'importe le plus. Êtes-vous rassasié par Dieu? Êtes-vous rassasié de Dieu? Avez-vous le cœur comblé? Parce que si vous êtes rassasié, quoi qu'il arrive demain encore, vous irez jusqu'au bout et vous tiendrez jusqu'au bout. Ces hommes, ces femmes ont tenu jusqu'au bout parce qu'ils avaient compris que si le diable était un voleur, Dieu était le Créateur. Et je reste persuadé que même si le diable nous a beaucoup volé, Dieu peut tout nous rendre. Vous ne le croyez pas? Dieu peut tout nous rendre, ce qui a été volé. Famille, santé, malheur, souffrance, larmes, années perdues. Regardez la vie de Job. Il lui a donné autant d'enfants qu'il avait perdus. Il avait perdu 10 enfants. Il les avait perdus, on est bien d'accord. Ils ne sont pas ressuscités d'entre les morts. Mais il lui a redonné 10 enfants. À nouveau, 7 garçons et 3 filles. Comme au début, 7 garçons, 3 filles. Et notez quand même, ces 3 femmes étaient les plus belles femmes que l'on avait jamais connues. Et cette fois-ci, il leur a même donné un héritage qui venait de la part des fils. Il a été comblé. Il a pu à nouveau serrer des enfants dans ses bras. Il a pu à nouveau rendre grâce à Dieu parce que Dieu avait apaisé sa souffrance et avait calmé ses douleurs. Et puis, en termes de bien, il lui en a rendu 2 fois plus. 2 fois plus. Quand je vois ça, je suis tellement heureux de me dire que si le diable nous a volé ça, eh bien, gloire à Dieu, Dieu nous rendra ça. Vous ne le croyez pas? On le croit, hein. Dieu est capable de nous rendre au centuple. Il est capable de bénir tellement plus. Alors gardons la foi, bien-aimés, quoi qu'il arrive. Gardons la foi, quelles que soient les difficultés, parce que tout a été payé, tout a été accompli par Christ. Souvenez-vous, est-ce que je l'ai noté, me semble-t-il? Ouais. Ce fameux psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel ». Est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va prier après cela? « Mon âme », relisez ce texte à l'écran, c'est une prière de la Bible. « Bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la vie, ta vie de la fosse. C'est lui qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Et c'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Je veux mourir très vieux, ça c'est Dieu qui décide, hein, mais âgé et rassasié de jour, heureux, comblé, réjoui, en disant ma vie a été belle, ma vie aura été belle. Je crois que c'est dans nos mains ces choses-là, parce que c'est dans les mains de notre Dieu. et il est prêt à nous offrir ces choses-là. David dira dans le psaume 23 que Dieu a dressé une table en face de nos adversaires. En face de nos adversaires, c'est-à-dire entre nous, il y a une table garnie. Et sur cette table, il y a toute la grâce de Dieu pour nos vies. Seigneur, nous venons devant toi et nous te bénissons pour le témoignage de ces quatre hommes. Le point commun, c'est ce qui les unissait, évidemment. Leur vie était tellement différente dans des cultures et dans des époques différentes. N'empêche que toi, tu n'avais pas changé parce que tu ne changeras jamais. Tu étais toujours le même. Et ce Dieu qu'ils ont confessé, nous le confessons aujourd'hui. Ce Dieu qu'ils ont aimé, nous l'aimons, nous, ce matin. Ce Dieu qui les a gardés, il nous a gardés jusqu'à ce jour. Ce Dieu qui les a protégés, nous protège encore aujourd'hui. Ce Dieu qui leur a parlé, nous parle encore aujourd'hui. Seigneur, nous te demandons de nous faire grâce. Nous te demandons de nous bénir encore. Jamais nous n'aurons assez de mots pour te dire merci pour ta fidélité. Jamais nous n'aurons assez de mots pour te louer pour tant de grâce. Mais nous voulons le faire quand même, avec nos faibles mots, et t'adorer en esprit et en vérité. Merci de ta bonté, merci de ta grâce. Raccompagne-nous dans ta bonté, raccompagne-nous dans ta paix. Et qu'en rentrant à la maison, nous entendions une bonne nouvelle, que nous puissions voir une bonne nouvelle. En revenant chez nous, en retournant à notre quotidien dès demain matin, au travail, à nos activités, que durant cette semaine, nous puissions entendre plein de bonnes nouvelles, qui nous montrera que tu es toujours fidèle. Et que tu nous rends ce que le diable nous a volé un temps. Merci de ta fidélité. Merci de ta bienveillance. C'est toi, notre Père, qui es dans les cieux. C'est toi qui guides notre vie. Et quoi qu'il advienne, nous resterons attachés à notre Dieu. Nous le bénirons jusqu'au bout. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen.